Bonjour à toutes et à tous, chers amis auditrices et auditeurs, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de Bande à part. Je suis Audrey Beldine, votre accompagnatrice. Nous sommes sur les ondes de Radio Alliance Plus pour notre émission d'histoire de l'art ouverte à tous, Bande à part, qui donne à entendre ce que vous pourriez voir. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une œuvre conservée au Musée des Beaux-Arts de Nîmes, La Charité romaine de Simon de Mailly. La Charité romaine, c'est une huile sur bois du XVIe siècle, réalisée par un artiste né vers 1500, probablement dans le village de Mailly, près de Châlons-en-Champagne. Aussi connu sous le nom de Simon de Châlons, il serait décédé en Avignon en 1561, si l'on en croit la notice de la base de données de l'INHA, à savoir l'Institut National d'Histoire de l'Art. D'ailleurs, j'en profite pour ménager une petite parenthèse. Le cartel de notre musée des Beaux-Arts lui prête vie entre 1506 et 1568, alors que l'INHA lui prête vie entre 1500 et 1561, signe que les contours des biographies de ces époques lointaines sont souvent mouvants. Donc, entre son début de vie et son décès, l'activité de Simon de Châlons se polarise en Avignon. Et c'est une certitude, puisque dès 1533, il y est documenté comme finissant un retable de la main du peintre genevois Henri Guigues, dont il a rejoint l'atelier. C'est d'ailleurs au décès de ce dernier, un an plus tard, qu'il en reprend selon toute vraisemblance l'atelier et, au passage, en épouse la veuve. La notice de l'INHA précise que sa carrière est documentée par plus d'une centaine de documents, notamment de nombreuses commandes de retables par des personnalités nobles d'Avignon. Sa particularité est d'avoir signé la majorité de ses retables, tous datés entre 1535 et 1557. Sur une base stylistique, des panneaux non signés, et c'est le cas de notre charité romaine, lui ont été attribués, portant son corpus à une vingtaine d'œuvres, soit un nombre plutôt conséquent pour un artiste français du XVIe siècle. Il semble aussi qu'il ait exercé un véritable monopole sur la production peinte avignonnaise de cette époque, même s'il a collaboré avec ses contemporains et engagé des apprentis comme son fils, Elzéard de Mailly, son beau-fils, Léon Guigues, ou encore le peintre François Mial. Pour l'anecdote, la figure de Simon de Mailly confirme la dimension entrepreneuriale des ateliers. À l'époque, les maîtres sont de véritables hommes d'affaires. En parallèle de sa production, notre homme cumule d'ailleurs une activité de prêt d'argent, ce qui lui permet de constituer une fortune conséquente. Pour approfondir, je suggère à ceux qui le souhaitent la consultation des travaux de Camille Laraz, L-A-2-R-A-Z, aux éditions Milan. Ils sont au nombre de deux, l'un portant sur la biographie de l'artiste paru en 2019 et le second qui s'intéresse davantage à la manière du peintre. La manière de Simon de Châlons se caractérise comme un mi-chemin entre les Flandres et l'Italie, dont il reprend les modèles gravés, favorisant notamment à la manière de son prédécesseur Henri Guigues, ceux de Raphaël, qu'il combine avec ceux de Dürer et Luca de Leyde. Il crée ainsi un langage pictural italianisant, apprécié d'une large clientèle de nobles, patriciens et ecclésiastiques, parmi lesquels la cour italienne du cardinal légat d'Avignon. À cet égard, on comprend mieux le pourquoi de l'œuvre qui nous occupe et qui reprend le thème de la charité romaine, thème qui, tout comme celui de la charité tout court, reste une tarte à la crème, si je puis dire, de l'iconographie de l'époque moderne occidentale. Aujourd'hui, je vais occulter la narration habituelle que j'écris pour entrer dans l'œuvre et sa description. Traditionnellement, une charité est une allégorie de l'une des trois vertus théologales, représentant une femme donnant le sein et protégeant deux enfants, le troisième étant le plus souvent pendu à son sein. La charité romaine, quant à elle, est une tradition picturale qui connaît un regain d'intérêt à la Renaissance et a une origine profane puisqu'elle représente une jeune fille donnant le sein à un vieux prisonnier dans l'obscurité d'une geôle. Vous comprenez donc mieux que je passe mon tour sur l'improvisation d'une narration et ouvre dès maintenant sur la description et le commentaire de l'œuvre, déconcerté que je suis, par la singularité pour le peu scabreuse de ce thème pictural. Dans la version de Simon de Châlons, on voit donc une jeune fille, le buste généreux, offrir son sein gauche à un vieillard agenouillé à ses pieds et qui porte des fers. vêtues et drapées à l'antique, les figures s'inscrivent dans une perspective à colonnes, dont la majesté, si l'on ne connaissait pas déjà l'histoire, laisserait croire que la scène se déroule tout sauf en prison. En arrière, sur la gauche du tableau, derrière la grille en lucarne d'une porte, apparaît un visage. Un homme ignoré du couple, père-fille, observe la scène. Enfin, en lettres d'or, on peut lire cette épigraphe « Marcia Romana, que Marti filia » que j'ai quelques peines à traduire, peut-être nous y reviendrons. Si l'on en croit l'auteur antique Valère Maxime, la charité romaine est en réalité charité grecque. L'auteur du 1er siècle romain, contemporain de l'empereur Tibère, rapporte dans ses « Faits et dits mémorables » la figure exemplaire de Péro, jeune fille grecque qui sauve d'une mort certaine son père Simon, appelé aussi parfois Mycon, citoyen condamné à mourir de faim en le nourrissant au sein à chacune de ses visites. Le vieillard, tardant étrangement à mourir, les gardiens s'aperçoivent que Péro donne le sein à son père. Touchés par cette piété filiale, les juges finissent alors par libérer le prisonnier. Si au départ la charité grecque évoque un couple mère-fille, la surreprésentation au début de notre ère du couple père-fille, comme en atteste une fresque datant du 1er siècle avant Jésus-Christ à Pompéi, explique le glissement de contenu de la figure de la mère à celle du père sauvé. On sait que dans l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, les faits et dits mémorables de Valère Maxime se sont abondamment répandus sous la forme de citations et d'abrégés, mais il semble que le regain d'intérêt de la période baroque, soit du XVIe au XVIIIe siècle pour ce thème, ait été davantage favorisé par la référence à des découvertes archéologiques que par un héritage médiéval. À un tel point qu'à compter du XVIe siècle, cette charité romaine, ce vieillard suçant le sein d'une jeune fille, devient même une représentation populaire dont le succès a pu être favorisé parfois par l'esprit anticatholique des Flandres, là où les maîtres avaient pour particularité, semble-t-il, d'en accentuer la charge érotique. À cet égard, Simon de Mailly semble s'inscrire dans la droite ligne de cette tradition provocatrice, comment ne pas voir ici une scène triangulaire, avec deux protagonistes phares réunis dans une relation érotique évidente, sous le regard voyeur d'un geôlier. Ou, encore, comment ne pas voir le dévoiement du thème de la mère nourricière qui émerge soudainement au XVIe siècle. Le cartel du musée des Beaux-Arts, qui accompagne notre œuvre dans sa muséographie, dit en effet ceci. Au XVIe siècle, le rapport à la maternité, les liens entre la Vierge Marie et l'enfant Jésus, coïncident avec la réalité contemporaine. Ainsi naît le thème de la mère nourricière. Les artistes s'intéressent alors à la charité romaine. L'illustration de ce thème par les peintres est souvent sexualisée, nous dit le cartel. Les femmes sont très jeunes et sensuelles, l'homme très âgé, les regards ambigus. Parfois même, comme sur l'œuvre du musée, un tiers personnage, tel un voyeur, observe la scène. Partant de là, je ne saurais ne pas rapprocher ma lecture, et éclairer la vôtre, par cette exclamation de l'historien de l'art Daniel Arras qui déclarait avec audace à propos de la Vénus d'Urbino, « C'est une pin-up ». Bref, de la même manière, et vous l'aurez compris ici, au diable la pudeur. Ça n'est plus vraiment la glorification de la piété filiale qui sous-tend ce que l'on pourrait presque qualifier ici de peinture de genre. Lorsqu'à la même époque, en Italie, foyer spontané de la contre-réforme, la charité romaine est souvent traitée avec plus de pudeur et blanchie de ses connotations douteuses, la version de Simon de Chalon rejoint peut-être sans rougir la manière plus licencieuse de certains maîtres du Nord. La nature frondeuse de son interprétation apparaît d'autant plus évidente si, par comparaison et contraste, nous la mettons en relation avec deux représentations plus célèbres, celle de Rubens et du Caravage. Quoique du Nord, dans sa charité romaine, Pierre-Paul Rubens propose un couple père-fille sans ambiguïté. On y voit le père misérable, quasi nu et affaibli, avachi sur une meule de foin que l'on suppose bien grasse. La barbe est hirsute et son œil hagard ne croise nullement celui de sa fille, qui dans une posture maternelle, caricature de la nourrice, se presse le sein, ne laissant ainsi place à aucune tentation érotique. Caravage, lui, plonge la charité romaine en même temps qu'il la blanchit dans son tableau « Les sept œuvres de miséricorde » peint en 1607. Deux des sept œuvres de miséricorde corporelle consistent dans la tradition chrétienne à visiter les prisonniers et à nourrir les affamés. Caravage fait donc une pierre de coups, en même temps qu'il réalise, lui, le peintre voyou, un coup de génie, à savoir celui de sanctifier cette incongruité iconographique qui est celle d'un vieillard suspendu au sein d'une jeune fille. Voilà, chers amis auditeurs, j'espère que cette nouvelle proposition de bande à part contribuera à vous rendre toujours plus enclin à nous écouter fidèlement. À très bientôt, n'oubliez pas de vous rendre au musée et portez-vous bien.